Avant la prière, je voudrais lire le premier chapitre de 1 Pierre à partir du verset 3. 1 Pierre, chapitre 1. Verset 3. Puis j'ai demandé que nous nous levions pour cela. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau à une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé au ciel, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Prions. Père céleste, nous te remercions de tout cœur de nous permettre d'être rassemblés ici dans la ville de Zurich cet après-midi. De plusieurs langues et pays pour t'offrir l'adoration et la louange. Nous te prions, Dieu fidèle, de nous bénir d'une manière toute particulière. Manifeste que tu reviens vers ton peuple. Révèle, montre que tu reviens vers ton peuple, parmi ton peuple, non seulement ta parole, mais aussi ton esprit et ton action puissante au milieu de nous. Sauve ceux qui sont perdus. Guéris ceux qui sont malades. Guéris ceux qui sont brisés. Prends soin de ceux qui sont fatigués et chargés. Parle-nous de telle manière que nous puissions te comprendre. Rends-nous silencieux tout à fait. Calme devant ta face, car c'est dans la tranquillité que réside votre force. Seigneur bien-aimé, tu connais particulièrement toutes les requêtes pour les malades et les souffrants. Combien de fois notre foi est-elle mise à rude épreuve, Seigneur? Fais-nous connaître ta volonté en toutes choses, comme cela a été demandé, soit avec nous. Guide-nous à travers cette réunion, par ton Saint-Esprit. Donne la grâce pour parler et la grâce pour écouter. Et encore plus, accorde la grâce d'obéir en mettant en pratique ce que tu nous as ordonné. Car ce n'est que si nous mettons la parole de Dieu en pratique, si nous sommes des exécutants de la parole, que ta bénédiction pourra reposer sur nous. Nous plaçons consciemment cette réunion sous le sang de l'agneau et sous la direction du Saint-Esprit. Et te prions, Seigneur fidèle, d'être au milieu de nous selon ta promesse. Nous te rendons grâce de tout cœur au Saint-Nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre chère sœur a déjà quitté le piano. Ensuite, nous allons immédiatement entrer dans l'observation de la parole. Mais avant cela, nous avons encore des bénédictions d'enfants. Et on m'a demandé directement et consciemment si les bénédictions d'enfants sont bibliques. Et là, je veux pour que puisque tout le monde le sait, donc connaître les différents versets, mais je voudrais lire dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 19, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Matthieu 19, verset 13. On lui amena alors des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent d'une manière brutale. Mais Jésus dit, « Laissez les enfants. » Ici, en fait, il devait être écrit, « Laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas de venir. » Donc, « Laissez les enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car c'est à leur semblable qu'est destiné le royaume des cieux. » Puis, il leur imposa les mains et partit de là. Pour expliquer cela très brièvement, tout ce que le Seigneur Jésus a fait et qui faisait partie de la prédication de son ministère et de la proclamation de l'Évangile est poursuivi maintenant par l'Église. Il prêchait l'Évangile. Nous prêchons l'Évangile. Ils ont baptisé dès le commencement. Jean a baptisé à l'époque de Jésus. Ils ont baptisé depuis l'époque des apôtres. Ils ont continué à baptiser. Nous pouvons comprendre toutes ces choses. Ce qui était biblique est encore biblique aujourd'hui. Et nous pouvons donc affirmer en toute bonne conscience que la bénédiction des enfants est biblique. Aujourd'hui encore, les parents peuvent amener consciemment leurs enfants au Seigneur pour qu'ils soient consacrés à Dieu et que nous prions pour eux et les bénissions avec l'imposition des mains au nom du Seigneur. Nous sommes convaincus que le verset 8 d'Hébreux 13 est encore vrai aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lien avec cela, et j'espère que personne ne le prendra comme une remarque d'incrédulité, je voudrais tout de même dire ceci pour clarifier les choses. Il y a, par exemple, des maladies qui, par leur guérison, servent à glorifier Dieu. Et il y a des maladies qui conduisent à la mort. C'est un ordre divin auquel nous devons nous plier, que nous le voulions ou non, que cela nous convienne ou non. Jusqu'à présent, tous les hommes, même les plus saints, les plus justes, les plus fidèles, ont quitté ce monde. Et nous pensons même à Jacob, l'homme de Dieu qui a perdu la vue. Et on pourrait se demander, mais comment Dieu a-t-il pu permettre que l'homme dont sont issus les 12 tribus d'Israël subissent un tel sort? Cet homme dont sont issus les 12 tribus d'Israël subissent un tel sort. Pardon. Je voudrais le dire uniquement pour que personne ne doute ni de la justice de la et de la sainteté absolue de Dieu, ne doute de sa propre foi, ni de sa, ne soit ébranlé dans sa propre foi. Je voudrais juste citer très brièvement trois passages bibliques pour que vous sachiez qu'il est effectivement possible, lorsqu'on atteint un certain âge, que la mort cherche une cause et que la maladie soit alors le meilleur moyen de l'aider. Matthieu 25, du verset 34. Ici, il est écrit. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui avez été bénis par mon Père, recevez en héritage la royauté qui vous a été préparée dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim. » Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais sans vêtements et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité, etc. Jusqu'ici, il s'agit que tout cela peut arriver à des croyants. Ici, notre Seigneur parle. Tout ce que vous avez fait au plus petit de ceux qui croient en moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout étonné, ces gens ont demandé par surprise. Je lis le verset 39 maintenant. Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, etc. Vu. Ils sont venus à toi. Ensuite, tu as la réponse que je viens justement de lire, que je viens de citer. Ne vous inquiétez pas. La mort n'est pas encore abolie. Elle ne sera engloutie que dans la victoire. Elle ne sera engloutie dans la victoire que lorsque l'achèvement viendra. Ne vous laissez pas ébranler dans votre foi. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, je lis du verset 1 jusqu'au verset 3. Peut-être que je le dis et je lis spécialement ces versets-là à cause de nous qui vieillissons et le ressentons plus que les jeunes. Jean, chapitre 9, versets 1 à 3. En passant, il vit alors un homme aveugle de naissance. Alors, ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents ?» pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est aussi un point, nous l'avons très vite dans notre bouche et nous le prononçons, un soupçon, quand vient la maladie. Qu'il y a un quelconque péché ou une transgression dans la vie de cette personne. Ce n'est pas forcément le cas, mais cela peut être le cas, et cela ressort clairement de Jacques 5, lorsque les anciens sont appelés, et qu'il est dit, s'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Ensuite, il est dit, confessez vos péchés les uns les autres. Je lis cela dans Jacques, le chapitre 5, à partir du verset 14. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il fasse venir auprès de lui les anciens de l'église qui prieront sur lui après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. Alors, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Nous devons également toucher cela très brièvement. Lorsqu'un homme est tombé malade, il a lui-même beaucoup de mal à croire. Il a tellement de mal à croire au moment où il tombe malade qu'il devient nécessaire que les anciens viennent le voir. Et cela avec la foi et prie à son sujet. Et c'est pourquoi il est dit, la prière de la foi aidera le malade et le Seigneur le relèvera. Mais la prière de la foi ne vient pas du malade, mais des frères qui prient pour ce malade. Certains, en particulier les jeunes, ou seulement dans leur jeune âge, ne savent pas ce que cela signifie d'être un jour malade. Mais maintenant, il y a encore un passage, et plus précisément, le chapitre 11 de Jean, probablement le meilleur que l'on puisse lire. Jean, chapitre 11, ici, c'est le verset 3 et 4. Jean 11, 3 et 4. Les sœurs envoyèrent donc dire à Jésus, « Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. » En entendant cela, Jésus dit, cette maladie ne conduit pas à la mort, mais elle sert à glorifier Dieu, car c'est par elle que le Fils de l'homme doit être glorifié. Il y a donc des maladies qui conduisent à la mort et il y a des maladies qui servent à la glorification de Dieu par la guérison. Si l'on doit prier pour les malades, il devrait en fait y avoir un discernement pour savoir quelle est réellement la volonté de Dieu à ce moment-là. En tant que frère, nous partons toujours du principe que la volonté de Dieu est que le frère ou la sœur soit guéri conformément à la parole de l'Écriture. Marc 16, dans l'ordre missionnaire, dans l'ordre de mission, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Du livre des Actes des apôtres, il est écrit, et par les mains des apôtres, il se faisait de grands signes et des prodiges parmi le peuple. À cela, nous disons oui et amen. De la même manière, nous savons, comme je l'ai mentionné plus tôt, que toutes les personnes qui sont entrées dans ce monde en sortiront également. Et aucun homme ne peut choisir la manière ou la cause, l'un d'une manière et d'autre de l'autre, d'une autre manière. Chacun suit jusqu'au bout le chemin que Dieu lui a fixé. S'il vous plaît, ne vous découragez pas. S'il vous plaît, ne doutez pas. Mais sachez que nous ne ferons que nous débarrasser de ce corps terrestre qui est de toute manière caduque et que nous recevrons ensuite un nouveau corps de résurrection. Faisons preuve de sagesse et de miséricorde par la miséricorde de notre Dieu lui-même, afin que personne ne soit confus dans sa foi. Avons-nous tous bien compris cela? Alors dites amen. Amen. Je voudrais qu'il n'y ait pas de malentendu. Nous vivons en effet à une époque directe où les malentendus sont à l'ordre du jour. Il n'y a guère de jour où des malentendus ne surgissent. Où des malentendus ne surgissent pas quelque part. Passons maintenant à l'observation de la parole. Je voudrais lire Romains chapitre 8 en relation avec la parole que nous avons déjà lue dans 1 Pierre chapitre 1. Et là, je voudrais lire ce verset qui compte ici maintenant. De 1 Pierre chapitre 1, seulement le verset 5. D'abord. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, 1 Pierre 1, verset 5, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. En bas, entre parenthèses, il y a écrit temps de la fin ou dernière période. Il y a un temps pour tout. Permettez-moi maintenant de lire la parole parallèle de Romains, le chapitre 8. Romains, chapitre 8, à partir du verset 19. Aussi la création attend, telle avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, la manifestation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance, hein? Avec l'espérance qu'elle aussi, la création, sera libérée de l'esclavage de la corruption afin d'avoir part à la liberté que posséderont les enfants de Dieu dans l'état de gloire. Nous savons, en effet, que jusqu'à présent, toute la création gémit encore partout et attend avec douleur une nouvelle naissance. Jusqu'ici, cette parole glorieuse. Nous ne sommes pas les seuls, mais toute la création attend l'achèvement, la perfection des enfants de Dieu. Et nous savons que l'achèvement comprend également la rédemption de notre corps, le changement de notre corps et l'enlèvement dans la gloire de Dieu. Je voudrais lire à ce sujet une parole qui a été lue mercredi soir, dernier dans notre étude biblique du soir. Je crois que c'était le frère Schmitt ou bien le frère Rousse qui l'ont lu, je ne sais pas. Je n'ai pas encore en ce moment la réponse, mais peut-être même encore quelqu'un d'autre qui l'a lu. En tout cas, c'était dans Colossiens chapitre 3. C'est une parole qui depuis beaucoup d'années a inondé mon cœur. Nous attendons le changement de notre corps, nous attendons la rédemption de notre corps. Pas de l'âme, ça nous l'avons déjà reçu, le changement de la transformation de l'âme. Mais ici, lisons maintenant dans Colossiens 3, du verset 1 à 4. Colossiens 3, verset 1 à 4. Si donc vous êtes, Colossiens 3, verset 1 à 4, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, là où Christ demeure, trônant à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Maintenant arrive le verset. Quand Christ, notre vie, sera manifesté, alors vous aussi, avec lui, vous serez manifestés dans la gloire. Une parole très importante. Si Christ est manifesté dans notre vie, alors nous aussi, nous serons manifestés avec lui dans la gloire. Nous le savons. Christ est en effet la révélation de Dieu lui-même sur terre. La manifestation visible de Dieu lui-même sur terre. Que devons-nous donc être maintenant? La vie de Christ lui-même doit être manifestée à travers nous. Elle ne doit pas seulement figurer dans la Bible, mais elle doit être révélée et manifestée en nous et par nous. Ce n'est plus moi qui vis maintenant, c'est Christ qui vit lui-même sa vie en moi. Et ce que je vis encore maintenant, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Dans la foi du Fils de Dieu. Et l'autre passage, où se trouve-t-il? Probablement Romains 14, verset 7. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Est-ce c'est ainsi pour nous? C'est déjà devenu comme ça? Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Être vraiment là à sa disposition. Vivre pour lui. Quand Christ sera manifesté dans notre vie, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui dans la gloire. Nous avons pas seulement entendu la prédication. Nous avons expérimenté personnellement ce qui nous a été promis dans la prédication. Nous avons reçu. La prédication n'est en effet là que pour mettre en relation avec Dieu les personnes qui écoutent la parole. Écoute la parole, la prédication. Et c'est de ce lien, de cette relation avec Dieu que nous recevons ce que nous avons entendu et cru de la prédication de la parole. S'il y a aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas encore la certitude d'être devenu un enfant de Dieu, il te suffit seulement de croire de tout ton cœur que Jésus-Christ, en tant que fils de Dieu, en tant qu'agneau de Dieu, est mort pour toi sur la croix à Golgotha, qu'il a porté, expié et porté tes fautes et tes péchés, qu'il a pris sur lui la malédiction et le châtiment qui aurait dû nous frapper, toi et moi, et qu'ainsi nous avons été acquittés, déclarés libres, et que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Si tu crois cela du fond du cœur, aujourd'hui, tu en fais l'expérience. Tu en feras l'expérience. Mais tu dois d'abord croire. Nous devons avoir des expériences, pas seulement la perspective de certaines expériences avec Dieu par la prédication, mais nous devons expérimenter réellement ce que Dieu a préparé pour nous et promis dans sa parole. Donné et promis dans sa parole. Et il est écrit que toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Nous abordons encore un sujet, et pas aujourd'hui, mais si Dieu le veut, sous peu. Il y a beaucoup de confusion sur le baptême du Saint-Esprit et du feu, sur le scellement et sur ce domaine. Et là aussi, nous aimerions, avec l'aide de Dieu, faire sortir la clarté par la parole. Mais cela ne suffit pas. Nous devons en faire l'expérience personnellement. C'est par l'expérience personnelle que nous obtenons la bonne réponse, que nous obtenons la bonne clarté par l'expérience elle-même. Et si l'enseignement devait encore faire défaut, toute l'écriture sainte est pleine d'enseignements. Je relis le verset encore, le verset 4 de Colossiens 3. Quand Christ, notre vie sera manifestée, quand Christ sera manifesté dans nos vies, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui dans la gloire. Revenons à Romains chapitre 4. Je lis ici le verset 23. Revenons à Romains 8, je lis ici le verset 23. Romains 8, verset 23. Mais non seulement eux, mais nous aussi, qui avons déjà l'esprit comme prémisse, nous gémissons de même en nous-mêmes, attendant la manifestation de la stature de fils, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. C'est là que nous abordons le point pour la deuxième fois. L'âme est rachetée. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et nous l'avons d'ailleurs chanté ou chantons souvent. Racheté ou bien sauvé, je puis bien m'en glorifier. Racheté par le sang de l'agneau, du sauveur. Mais le corps attend que vienne l'achèvement des rachetés. Je voudrais lire cela ici. Et puis plus précisément dans l'épître aux Éphésiens, au premier chapitre. Éphésiens. Chapitre 1, verset 13. Éphésiens 1, verset 13 et 14. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, le message de votre salut, il a dit l'évangile de votre salut, et après l'avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Esprit promis qui est le gage de notre héritage ou alors l'assurance de notre héritage pour la rédemption de son Église qu'il s'est acquise à la louange de sa gloire. Le gage, la garantie pour notre héritage. C'est une parole tout à fait merveilleuse. Il ne s'agit pas seulement d'une onction de l'Esprit. Il s'agit ici du scellement par le Saint-Esprit. Et je peux peut-être déjà souligner cette pensée ici. Seuls peuvent être scellés tous les fils et toutes les filles de Dieu que Dieu a connus d'avance et qu'il a prédestinés, élus et qui reçoivent la parole de vérité dans la foi. De tout leur cœur, la parole de l'heure. Tous les membres du mouvement charismatique peuvent peuvent recevoir une onction et poursuivre malgré tout leur propre chemin et leur propre doctrine et enseignement. Mais si Dieu nous imprime son sceau, cela signifie que nous sommes sa propriété éternelle. Cela signifie que Dieu sait que nous suivrons le chemin avec lui, son chemin avec lui jusqu'au bout et que nous atteindrons le but. Amen. Amen. Et c'est ce genre de personne que Dieu veut faire de nous. Quand on voit comment dans le mouvement charismatique, quel qu'il soit, tout flotte, danse et saute et fond de la musique, cela s'arrête un jour, s'arrêtera un jour, comme le naufrage du Titanic. Et alors, on entonnera avec le dernier chœur de trompette, de trombone, plus près, mon Dieu, plus vers toi, plus près de toi. C'est en effet le dernier chant qui a été entonné avant que le naufrage du Titanic ait lieu. Il y aura des gens qui ne comprendront qu'au dernier moment qu'ils étaient assis dans le mauvais bateau. Mais merci au Dieu vivant qui nous a ouvert les yeux sur l'ensemble du témoignage des Saintes Écritures. Nous croyons toute la vérité, pas des vérités partielles, pas des vérités d'Afrique trafiquées, mais nous croyons les Saintes Écritures de tout notre cœur et de toute notre âme. Et c'est pourquoi il est nécessaire de lire très attentivement les passages bibliques à ce sujet. En lui, vous aussi, redis le verset 13, après avoir entendu la parole de la vérité, vous voyez, la parole de la vérité, l'évangile, le plein évangile, tout l'évangile qui inclut tout, et ensuite, après avoir cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit. Oui, c'est ce genre de personne que Dieu veut faire de nous, qui marche dans toutes ses voies, croit en sa parole et la met en pratique, l'observe. J'aimerais encore lire le chapitre 4 d'Éphésiens, le verset 13 jusqu'au verset 15. Éphésiens 4, du verset 13 au verset 13 jusqu'au verset 15, il est parlé ici de l'Église et des ministères. Jusqu'à ce que nous parvenions tous enfin à l'unité de la foi, Éphésiens 4, verset 13, et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'homme parfait, à la pleine mesure de la stature dans la plénitude du Christ. Peut-être que ce verset suffit déjà. On entend de nos jours des gens qui prétendent être devenus des fils de Dieu, des enfants de Dieu, dont déjà manifestés comme fils de Dieu, qui prétendent déjà que le Christ est déjà venu, et ainsi de suite, est déjà revenu. Donc, je l'ai certainement mentionné ici une fois, je l'ai dit directement à un frère, tant que je suis encore sur terre, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Et ça, bien sûr, il me l'a dit, comment peux-tu affirmer cela? Oui, on dit même, l'enlèvement a déjà eu lieu. Il y en a qui le disent, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les choses que Dieu a promises dans sa parole se produiront littéralement telles qu'elles sont écrites dans la parole de Dieu en relation avec l'enlèvement. Ce qui est corruptible, ce qui est corruptible revêtra l'incorruptibilité et ce qui est mortel revêtra l'immortalité. Et puis un mortel et incorruptible se tient devant moi et dit, nous sommes enlevés, pars avec moi. Là, les gens doivent en choisir d'autres pour raconter leurs histoires. J'ai failli donner une comparaison inutile. Permettez-moi de dire encore une fois, combien nous devrions être reconnaissants que Dieu nous ait préservés sobres et clairs dans sa parole et aussi dans la clarté de l'esprit. Si ce n'est pas le cas, la clarté des pensées et des sens, si ce n'est pas le cas, où devrions-nous finir? Non. La Bible dit, soyez sobres en toutes choses. Et d'autant plus que ce jour approche. Je suis également reconnaissant à Dieu de tout mon cœur pour cette sobriété. Tout dans le temps, au temps convenable et en ordre et dans l'ordre, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la parfaite maturité, à la pleine mesure de la croissance dans la plénitude du Christ. Je voudrais commencer par aller au chapitre 14 de 1 Corinthiens et vous montrer comment est-ce que Paul entend comme de Dieu qui disposait probablement de presque tous les dons de l'Esprit et comment il s'exprime malgré tout si merveilleusement pour apporter ce qui sert à l'édification de l'Église. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 6. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 6. Ainsi, frères, si je venais à vous en parlant en langue, à quoi servirais-je si je ne vous adressais pas des paroles de révélation ou de connaissance, des paroles prophétiques ou un enseignement? Un homme de Dieu ne vient pas dans une réunion pour se présenter ou pour montrer ce qu'il peut ou ne peut pas faire et ce qu'il a ou n'a pas. Un homme de Dieu vient avec un respect divin, une crainte divine dans un seul but. C'est de contribuer à l'édification de l'Église, à savoir du corps de Jésus-Christ, pour apporter des paroles de révélation, d'enseignement et tout ce qui s'y rapporte. Paul écrit encore dans le même chapitre, 1 Corinthiens 14, au verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Mais dans une assemblée de l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence pour instruire aussi les autres que plusieurs milliers de paroles en langue. Pourquoi lisons-nous cela aujourd'hui? Peut-être pour la raison suivante. En Europe aussi, beaucoup de choses se répandent. Malgré tout, des gens m'envoient des articles de journaux avec de grandes choses qui commencent maintenant ici aussi avec des évangélistes de la télévision et heureusement, sans expéditeur, c'est bien comme ça. Pourquoi devrait-on toujours mettre un expéditeur sur une lettre, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Si ça ne dépend que de moi, ils peuvent tous apparaître. Et qu'est-ce que Frère Branham a toujours dit? Donnez-leur le test de la parole. Mettez-les à l'épreuve de la parole. Mettez-les à l'épreuve de la parole. Et si ça ne correspond pas à la parole, alors ça ne correspond pas. Ce n'est pas. Alors ça veut dire que ce n'est pas vrai. Alors la musique peut être juste, mais si la prédication n'est pas juste, alors quelque chose ne va pas. Dieu est le Dieu de sa parole. Et son peuple accueille, reçoit et accepte, reçoit sa parole avec reconnaissance. Je voudrais maintenant revenir à 1 Pierre. Et plus précisément au verset 12 maintenant. 1 Pierre chapitre 1, ici le verset 12. Peut-être que nous devrions lire à partir du verset 11, aussi le verset 10 encore, car il s'agit de la parole. C'est au sujet de ce salut que les prophètes ont réfléchi et fait des recherches. Eux qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous a été accordé cherchant à découvrir quel était le temps que l'Esprit du Christ agissant en eux indiquait lorsqu'il leur attestait d'avance les souffrances destinées au Christ et ses gloires qui suivraient. Il leur fut révélé, verset 12, que par leur ministère, il leur fut révélé que par leur ministère, ils devaient transmettre, non pas à eux-mêmes, mais à vous, les choses même qui vous sont maintenant annoncées par les hommes qui vous ont prêché le message du salut par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. Des choses dans lesquelles même les anges aimeraient regarder. Quelle parole merveilleuse! Les prophètes ont reçu à l'avance la révélation par l'Esprit de ce qui devait être par Christ, de ce qui devait arriver par Christ, avec lui et par lui. Ils l'ont reçu révélé par l'Esprit. Tout ce qui devait arriver par Christ et avec Christ. Et puis, cette magnifique affirmation. Ils ne se servaient pas eux-mêmes, mais Dieu les utilisait pour que nous soyons servis, pour que nous soyons aidés, pour que nous soyons divinement informés de ce que Dieu a prévu pour nous de toute éternité dans son plan de salut. Je ne sais pas comment les choses vont pour vous, mais pour moi, les contextes de l'ensemble du conseil du salut de Dieu deviennent de plus en plus clairs, de plus en plus précieux. On les voit de plus en plus clairement à la lumière de la parole révélée. Et si quelqu'un dit, comme nous l'entendons assez souvent, nous avons les Saintes Écritures, nous avons Jésus, nous n'avons pas besoin d'un prophète. Imaginez, vous, si on avait dit cela à l'époque d'Ésaïe ou de Jérémie ou de Moïse, ou à l'époque de Jean-Baptiste, ou à l'époque de Paul, et ainsi de suite. Je dis exactement comme une phrase complémentaire. Donc, une phrase à ajouter. Si nous avons vraiment Jésus-Christ et que nous possédons vraiment les Saintes Écritures, alors nous accepterons à bras ouverts et accueillerons à bras ouverts ce que Dieu a promis et dans sa parole et nous en remercierons Dieu pour cela. Mais celui qui n'a que la lettre et qui fait un peu de commerce religieux, et comme nous l'avons tous appris récemment, c'est dans le christianisme qu'on peut le mieux le faire, n'est-ce pas, le commerce religieux. Alors que de retour de la Roumanie, je lisais dans le Herald Tribune, c'est que le plus grand évangéliste de la télévision allait cesser de prêcher car il faisait que s'occuper de la politique. Il n'aurait même pas dû commencer. Il a même pas besoin d'avoir commencé à prêcher. Ça aurait été mieux. Parce que quand on a une vocation divine, alors on a une vocation divine, un appel divin, un mandat divin, alors on veut plutôt mourir que de s'en détacher. Enfin bref, j'aimerais lire ici une autre parole tirée de la lettre aux Éphésiens. Où Paul en parle encore très clairement, le verset 4 du chapitre 3 des Éphésiens. Éphésiens 3, verset 4. Éphésiens 3, verset 4. Par là, si vous le lisez, vous pouvez reconnaître mon intime familiarité avec le mystère du Christ, ce qui, dans les siècles passés, n'a pas été fait connaître aux enfants des hommes, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes. Ici aussi, dans le Nouveau Testament, des apôtres et des prophètes sont mentionnés, auxquels le mystère de Dieu a été révélé. La familiarité avec ce mystère de Dieu n'est peut-être pas l'affaire d'un évangéliste, mais elle appartient au domaine des apôtres et des prophètes qui ont de l'intuition, qui ont une vue d'ensemble dans tout le conseil du salut de notre Dieu. Hier, j'ai envoyé une lettre à l'un de ces grands évangélistes pour lui faire part de mon désir de ne pas assister à une évangélisation hollywoodienne en Europe, mais à une prédication biblique, apostolique et à un ministère tel qu'il existait au temps des apôtres. Nous verrons bien quelle sera la réponse. On peut être un peu surpris, n'est-ce pas? Mais peu importe. Nous avons reçu une chose sur le chemin. Premièrement, c'est l'humilité et la reconnaissance. Humilité, car nous avons eu la grâce de nous incliner, de nous soumettre sous la main puissante de Dieu et de tout ce qu'il a décidé et qu'il exécute. L'accepter et se soumettre, c'est cela, la grâce. Celui qui aujourd'hui, à notre époque, peut s'incliner, se soumettre et se soumettre à Dieu, se laisser intégrer dans, sans réticence, dans le déroulement de l'histoire du salut. Un tel homme rend grâce à Dieu jour et nuit, qui rende grâce à Dieu nuit et jour. Car je peux te dire que Dieu t'a fait grâce alors. Celui à qui Dieu fait grâce, il ne lui fait pas seulement connaître ses voies. Il lui fait connaître ses... Il lui fait aussi suivre ses voies. Pas seulement connaître ses voies, mais les suivre. Il lui fait suivre ses voies. Il ne lui fait pas seulement expérimenter la vérité de la parole. Il lui fait marcher dans... Il le fait marcher dans la vérité de la parole. Il le laisse devenir une partie de la vérité. Et c'est là que nous revenons au point, pas seulement la proclamation, mais l'expérience commune, faire partie, devenir une partie de ce que Dieu fait de nos jours. Nous l'avons compris ici et j'en suis reconnaissant à Dieu du fond du cœur. Le ministère prophétique de Frère Branham était un ministère prédit dans la parole de Dieu, appartenant au plan et au royaume de Dieu. Il ne s'est pas servi lui-même, tout comme les prophètes et les apôtres. Mais c'est nous, le peuple de Dieu, qu'il devait servir et qu'il a servi. Et il l'a fait en toute fidélité et en toute véracité. Bien sûr, là aussi nous devons faire preuve de sagesse et ne pas frapper directement à la porte, mais montrer, pas entrer sans frapper à la porte, mais montrer aux gens le chemin vers Christ avant de les familiariser avec tout le reste. Je voulais encore lire dans Éphésiens, ça je l'ai déjà fait, je le fais maintenant dans Matthieu 24, 47, une parole très connue de nous tous, je le lis avec reconnaissance envers mon Seigneur et Dieu, car je sais pertinemment, que nous vivons à l'époque où l'on ne se contente pas d'aligner des vérités partielles et des morceaux ici et là, mais où la révélation parfaite de la volonté et de la révélation et de la volonté de la parole, la révélation parfaite de la parole et de la volonté de Dieu nous a été accordée. Ici, il est écrit dans Matthieu 24, verset 47, « Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Pas seulement sur quelques-uns, sur quelque chose mais surtout à quel moment? Au moment de la restitution, de la restauration de toutes choses, au moment où l'on annoncera pas seulement la justification unilatérale, la sanctification unilatérale, ceci ou cela unilatéral, mais au moment final où tout sera restitué et remis à sa juste place. Unilatéral, donc il veut dire par là montrer d'un seul côté. Non. À la fin, Dieu dressera sa table avec tout. Rien ne manquera. Le salut, la guérison, la restauration totale, le baptême de l'Esprit, du Saint-Esprit et de feu, les dons de l'Esprit, la puissance de la résurrection, tout ce qui appartient à l'Église, il sera également ramené, restitué, restauré par la restitution. Toutes ces choses seront retrouvées dans l'Église. Croyez-vous cela à tous? Moi, je le crois. Et je le crois parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Vous savez bien que c'est seulement parce que ce sont maintenant les derniers jours et que tout arrive vraiment à sa conclusion que les choses que Dieu a prédites dans ses paroles se produisent. Si Luther ou Calvin, Zwingli, si ces hommes ou bien Zwingli qui qui ils étaient tous. S'ils avaient attendu ce qui est promis pour ces jours, pour notre temps, dans leur époque, ils auraient été déçus. Ils avaient tous leur temps, leur jour. Les plus grands évangélistes, comme Moody, Finney, qui qu'ils aient été, tous ces hommes de Dieu ont eu leur place. Nous ne disons rien contre cela. Mais nous vivons à la fin des temps. Dans les jours dont ont parlé et écrit les prophètes, des jours dont beaucoup aimeraient être les témoins, aimeraient pouvoir vivre. Et imaginez aujourd'hui à quel point les voyages étaient difficiles. Il y a 2000 ans, ou pour ma part, ou bien il y a encore 200 ou 300 ans. Et aujourd'hui, on s'installe dans un avion au milieu de l'Europe et on en descend quelques heures plus tard seulement, comme si un rêve venait de passer et déjà on peut proclamer la parole de Dieu. Certains ont même demandé comment donc s'accomplira ce qui est écrit dans Matthieu 24, verset 14, à savoir que cet évangile doit être annoncé à toutes les nations et à toutes les langues en vue de leur... Donc, comme un témoignage. Ne vous inquiétez pas. Remercions Dieu pour les avions. Remercions Dieu pour les satellites. Remercions Dieu pour toutes les possibilités merveilleuses que nous avons maintenant. Pour autant que l'heure de Dieu sonne pour cela, je vous le dis, dès aujourd'hui, elle sonne. Elle sonne. L'heure de Dieu sonne. S'il est écrit dans ma Bible et dans la tienne que la parole sera annoncée à toutes les peuples, à tous les peuples, à toutes les langues et à toutes les nations, alors cela doit se faire comme c'est écrit. Car les Écritures ne peuvent pas être brisées et annulées. Et Dieu pourvoit à tout. Et ce qui est beau, c'est que vous pouvez vraiment vous détendre. Vous n'avez pas à vous soucier de la partie financière. Dieu s'en chargera. C'est une chose dont je pourrais me réjouir et exulter quand je vois à quel point Dieu pourvoit merveilleusement à tout. Pas de mendicité, pas d'indication cachée ou ouverte, simplement une confiance silencieuse en Dieu. C'est son affaire, son œuvre à laquelle nous nous tenons, dans laquelle nous nous tenons, lui en nous, nous en lui. Parole divinement révélée pour ce temps. Je vous le dis dès maintenant. J'ai assisté plusieurs fois, pas seulement une fois, plusieurs fois, dans les années qui sont derrière nous, plus de 20 ans et plus en arrière, à la façon dont l'évangéliste est resté derrière le rideau jusqu'à ce que la musique et tout cela ait suivi son cours. Et puis soudain, l'annonce est arrivée, tout à fait passionnante. Et maintenant, c'est mon privilège de vous présenter l'homme de Dieu de cette heure. Et voici, le rideau s'est ouvert et l'homme de l'heure est arrivé. Mais l'homme de l'heure n'avait pas la parole de l'heure. N'avait aucune idée de ce que Dieu fait à l'heure actuelle. Et puis encore et encore, le rideau précédemment fermé et soudain ouvert. Et alors mon cœur exulte et se réjouit lorsque nous disons en toute simplicité, sans publicité, sans grande annonce, maintenant l'homme de l'heure entre en scène. Maintenant se présente un homme pathétique, simple, qui n'est pas digne d'apporter la parole de Dieu. Mais il se présente avec la parole de l'heure, avec les promesses de l'heure, avec le message de l'heure. Et c'est cela qui compte. Pas la publicité, pas l'évangélisation hollywoodienne et hollywoodienne, mais la véritable proclamation de la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais notre bien-aimé frère est assis ici. Et il m'a envoyé la signification de mon nom il y a quelques jours. Quelqu'un d'Autriche me l'avait déjà envoyé il y a quelques semaines. Je n'ai jamais voulu que l'on m'appelle par mon prénom. Laisse tomber, frère Harald. Mais, comme je l'ai dit, et depuis que je sais ce que ce nom signifie, je ne suis plus si réticent. Il vient en effet de la composition de l'Éternel et de Walten, dispensé, éternel et dispensé, et à la signification d'administrer, administrer le droit, administrer le droit éternel, Walten, Walten. Et ce n'est pas si mal, donc, que Dieu administre, que Dieu donne, que nous, je le reproduirai peut-être encore une fois. C'est ce que je souhaite. Je ne veux pas être plus qu'un fidèle administrateur des ministres, des mystères de Dieu, comme Paul l'écrivait alors. Un ouvrier qui partage correctement la parole de la vérité, qui n'a pas à rougir en ce jour-là. Je n'ai rien à gérer en propre, mais gérer le divin, ce qui nous a été confié pour l'éternité. C'est pour moi un grand privilège, l'administrer, le dispenser, que Dieu m'y aide maintenant et dans le temps et l'éternité. N'est-ce pas le cas? Si, certains m'ont demandé pourquoi j'étais venu sur cette terre précisément comme cadeau de Noël, quelqu'un me l'a dit, justement en décembre, le 24. Et maintenant, je dois encore administrer le droit de Dieu. Très bien, que Dieu me le donne vraiment, comme à tous les prophètes et à tous les apôtres. C'est mon souhait le plus sincère, en accord avec Dieu, avec l'Ancien et le Nouveau Testament, avec les prophètes et les apôtres, à la lumière de la parole révélée pour ce temps, à porter et porter le message divin jusqu'aux extrémités de la terre et administrer le droit divin, que Dieu arrive à ses fins et qu'il reçoive ce qu'il revient de plein droit, à son droit éternel avec nous tous. N'êtes-vous pas heureux que nous puissions écouter, croire et recevoir la parole en toute simplicité? En toute simplicité. Personne avec une réputation, un rang ou un nom, mais avec un message qui a une réputation, un rang et un nom. Un message divin en ces temps. Heureux tous ceux qui l'entendent, qui le reçoivent et le croient de tout leur cœur. Dieu ne peut aller de l'avant qu'avec des serviteurs qui reçoivent chaque parole, eux-mêmes qui croient chaque parole, eux-mêmes qui obéissent eux-mêmes, pas à pas, en suivant le Seigneur, et qui repoussent, rejettent tout ce qui pourrait signifier une résistance intérieure, et disent, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Aide-moi et je serai aidé. Bénis-moi et je serai béni. J'attends que la semence spirituelle d'Abraham, les descendants d'Abraham spirituels, les fils et les filles des promesses divines, reçoivent le Saint-Esprit promis, et que nous devenions vraiment sans effort de notre part une telle famille de Dieu dans laquelle règne l'harmonie divine des hommes intimement unis à Dieu, dans la relation intime avec Dieu et entre eux et les uns avec les autres, dans la communion de l'Esprit, comme il en était au commencement, qu'il en soit de même à la fin. Notre Seigneur est en effet le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Comme il était au début, il sera et doit être à la fin. Ce qu'il a fait au début, il le fera aussi à la fin. Pensez au sermon de Frère Branham. Dieu révélé dans la simplicité. Pensez aux paroles de Paul. Mes frères, je ne suis pas venu à vous avec des paroles élevées de sagesse humaine, mais avec une humilité que je vous ai annoncé la parole en tremblant. Je n'ai fait grève qu'une seule fois, et c'était lorsqu'un homme s'est vu décerner le titre de docteur en philosophie lors d'une promotion. Je ne le savais pas avant. Je savais juste qu'il y avait un événement auquel j'étais invité quelque part. Et au milieu de tout cela, j'ai ouvert le passage biblique de la lettre aux Colossiens où il est écrit « Gardez-vous de la philosophie ». Et vous pouvez me croire, j'ai ensuite tanné la peau de cet homme et je lui ai tiré la peau par-dessus les oreilles parce que c'est absolument non biblique pour n'importe quel homme qui prêche la parole de Dieu de traiter avec la philosophie. Je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas supporter que quiconque, pas seulement le terme. Je vous donne un exemple. C'est seulement quelques jours derrière moi. Voici ce que m'a dit soudainement un frère bien-aimé en Roumanie. J'espère qu'il l'entend, sinon c'est aussi bien. En tout cas, il m'a dit, « Frère Franck, maintenant ce qui est écrit dans Jean 4 s'accomplit. Quand même tu as eu 5 hommes, 5 maris, et le mari que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Et ensuite, il dit, « Le premier âge de l'Église ressemble, oui, au dernier, et les 5 sont entre les 2. » C'est donc là qu'il a tripoté le truc. J'ai dit, « Écoute, je veux dire, entendre, je veux bien entendre tout le reste, mais pas de fantaisie ni de philosophie. Je ne veux qu'une proclamation claire de la parole de Dieu et rien d'autre. Vous savez ce que je veux dire par là. Je ne le donne qu'à titre d'exemple, comme rien d'autre. Restons sobres et clairs dans tous les cas et remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous tous par grâce. Que son nom et que son saint nom soient loués et glorifiés. Lui qui a commencé, il achèvera aussi. Ne vous agitez pas, ne soyez pas pressés. Il a déjà fixé le moment. Tout doit se passer comme le Seigneur le veut, comme il le veut. Que le cœur se taise en silence. Entrons dans le repos de Dieu et croyons attendons de tout cœur que Dieu fasse ce qu'il a promis. Loué et exalté soit le Seigneur. Éternellement. Amen. Levons-nous et adorons. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur pour ta chère et sainte parole. Seigneur, que pouvons-nous t'apporter comme remerciement. Avec quoi pouvons-nous faire, ne serait-ce qu'une petite partie pour t'exprimer notre estime et notre reconnaissance. Voici notre vie, notre temps. Nous sommes ici. Prends-nous, bénis-nous et établis-nous en bénédiction pour les autres. Seigneur, bien-aimé, tu connais notre désir de rester fidèle jusqu'à la fin, de marcher en ta main, dans ta main, à ta main, d'emporter ta parole comme une lampe à nos pieds. Dieu fidèle, tu es si merveilleux. Personne n'aurait pu nous le rendre plus clair que ton esprit. Il a pris ce qui est à toi et il nous l'a révélé. Il a annoncé les choses à venir, comme il est écrit. Ah Seigneur, bien-aimé, nous ne sommes pas dans les ténèbres, mais nous pouvons marcher dans la lumière. Car c'est ainsi que tu as dit, celui qui me suit ne demeurera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Grand Dieu, Créateur du ciel et de la terre, je sais que nous parlons avec toi maintenant et que maintenant tu nous accordes ton attention de l'écoute. Je te remercie consciemment par Jésus-Christ, notre Seigneur, par Golgotha. Nous avons été réconciliés avec et unis avec toi. Je te remercie pour ta parole. Merci pour le ministère de Frère Branham. Mon Dieu, même si je ne le mentionne pas souvent, mais je n'aurais aucun ministère s'il n'avait pas accompli fidèlement le ministère que tu lui as confié. Je n'aurai pas de nourriture à distribuer, Seigneur, bien-aimé. Tu as tout conduit si merveilleusement. Dieu fidèle, tu connais mon cœur. J'ai lu il y a 2 jours comment tu lui as parlé le 1er avril 1972 et il en a parlé. Et à moi, tu l'as fait le 2 avril 1962. Tu lui as dit dans ma résine de la nourriture et à moi, tu as dit qu'elle doit être distribuée. Seigneur, bien-aimé, tu as même arrangé le temps. Tu as tout fait correctement. Comment pouvons-nous le comprendre? Tu es Dieu. Tu es omniscient. Tu es fidèle. Je te prie, Seigneur, de nous fortifier tous dans la foi. Et pour les malades, nous ne prions pas seulement. Nous croyons que si tu les as destinés à la vie, c'est ta volonté qu'ils guérissent. Et si tu les as destinés à la mort, c'est ta volonté que tu les ramènes à la maison. Tu les reprennes à la maison. Mais Seigneur, nous te prions de nous permettre de faire la différence. Je le répète, si tu les as destinés à la vie, tu les as destinés alors à être guéris. Nous ne pouvons pas croire autrement, Seigneur. Si tu veux les reprendre à la maison, que ta volonté soit faite en tous. Seigneur bien-aimé, nous nous soumettons simplement, sans discuter avec toi, sans contester, en disant, ton action est parfaite. Seigneur bien-aimé, bénis-nous tous maintenant. Ton action est parfaite. Bénis-nous tous maintenant de la richesse de ta grâce. Bénis avec nous tous, tous les frères et sœurs ici en Suisse, en Autriche, dans les 2 parties de l'Allemagne, partout, ô Seigneur, où les cassettes sont écoutées, que tous soient bénis dans le monde entier. Bénis frère Barillier, bénis frère Genton, bénis tous les frères qui travaillent de manière désintéressée dans le royaume de Dieu. Frère Forestieri, qui que vous soyez, Seigneur, bénis-les dans le monde entier et fais-nous vivre en peu de temps que tu ébranles les cieux et la terre, que la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas se manifeste comme il est écrit dans le prophète Malachi. Mais fais en sorte qu'il soit manifeste, que nous croyons aux promesses que tu as faites pour notre temps dans ta parole. Fais apparaître que nous sommes de ton côté et que tu peux témoigner de toi même parmi nous. À toi, Dieu Tout-Puissant, gloire et honneur pour l'éternité. Amen.